Bonsoir Pierre, eh bien la revue de la presse arabe, c'est comme le temps, ça chauffe partout. Alors on commence avec Al-Sharq El-Wazat, le quotidien saoudien basé à Londres. Il y a un mot qui revient dans toute la presse arabe cette semaine concernant tous les pays, c'est que c'est intense, comme la chaleur. Donc Israël monte l'intensité des bombardements sur Gaza, alors que la Maison-Blanche brandit les pourparlers avec intensité pour un cessez-le-feu à Gaza. Un intime de Benjamin Netanyahou, c'est ainsi qu'il est nommé, Ron Dener, qui est ministre, est attendu à la Maison-Blanche pour justement parler d'un cessez-le-feu à Gaza, de l'Iran et de l'élargissement des accords diplomatiques de la région, ce qu'on appelle les accords d'Abraham. De sources palestiniennes et égyptiennes, les médiateurs mais des sources off, les médiateurs du Qatari et égyptien, eux aussi, mènent des contacts intensifs avec les deux côtés, c'est-à-dire du côté israélien et du côté Hamas, pour reprendre les négociations. Mais il n'y a pas de date fixée, c'est comme la chaleur, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. À Bagdad, la capitale irakienne, alors là, on a des problèmes entre les différentes fractions et les différents partis concernant l'organisation de futures élections. Et le parti Sadriste, qui est dirigé par le chef chiite, qui est un imam, Moqtada al-Sadr, lui dénonce la corruption du système et il demande le boycott des élections. Il va même peut-être saisir les tribunaux. Et il dénonce la corruption et du système financier et des politiques. Les politiques, eux, là aussi, c'est le terme employé par la presse, intensifient leurs efforts pour obtenir sous une forme ou une autre la participation justement du parti Sadriste. Des factions chiites qui ne sont pas membres du parti principal chiite se considèrent comme les héritiers du vote chiite et ont décidé de ne pas laisser sur le côté les millions d'électeurs qui sont désillusionnés et se préparent, ces fractions chiites, excusez-moi, à saisir les tribunaux. Le Premier ministre Mohamed Cheikh Al-Soudani est le leader de la coalition, qui est en même temps le chef du parti Reconstruction et Développement. Lui aussi est contesté par le porte-parole du Parlement et le leader du parti Progrès qui s'appelle Takadoum. Et ces deux personnes, porte-parole du Parlement et leader du parti du Progrès, se préparent eux aussi à sauvegarder la présence sunnite, surtout à Bagdad, et n'exclut pas de saisir également la justice. Comme vous voyez, ce n'est pas calme. Nous continuons avec l'Iran et le journal Al Jazeera, où le député Majid Takht Ravanchi a déclaré: les États-Unis doivent éliminer tout risque d'attaque contre l'Iran s'ils veulent les fruits de leurs efforts diplomatiques. Le site de Natanz, l'un des sites qui a été bombardé, serait très endommagé. Les sections de fûts d'enrichissement d'uranium à 60%, avec toutes leurs installations, incluant les générateurs, seraient détruits. Là, on pourrait dire que ce qui chauffait le plus a été éteint. Et ce qui nous donne l'information, c'est la source Sanad. Le Sanad, c'est l'Institute for Science and International Security, qui a une antenne en Irak et en Syrie. Donc, ce sont des informations qui viennent du monde de l'intelligentsia arabe. Nous continuons avec Tasnim, qui est l'organe de presse iranien, l'agence de presse officielle iranien. Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères iranien, s'est exprimé à la télévision jeudi pour bien préciser qu'il n'y avait pas d'accord en cours avec les États-Unis, qu'il n'y avait pas de reprise des négociations sur le nucléaire et que le sujet des négociations n'était même pas à l'ordre du jour. Et à la question « Quelle est l'étendue des dégâts ?», réponse « Ils ne sont pas mineurs, on va les évaluer ». Et puis, ce lundi, conférence de presse du porte-parole du même ministre des Affaires étrangères qui réitère qu'ils sont opposés à la coopération avec l'Agence des Nations Unies sur l'énergie nucléaire, ce qui, par les initiales, donne IAEA, International Atomic Energy Agency, et considère qu'il y a une rupture de relation due notamment au rapport inapproprié du chef de l'agence qui est soumis aux résolutions politiques des gouvernements qui y participent et notamment des gouvernements occidentaux. L'Iran refuse par ailleurs la visite aux Occidentaux et aux Américains de ces sites nucléaires. Nous poursuivons avec l'Orient le Jour, qui est le quotidien libanais, qui dans cette situation iranienne comme ça très tendue, nous annonce quand même que les États-Unis s'apprêteraient à verser 30 milliards de dollars pour le nucléaire civil. Ils sont très généreux, mais ce ne serait pas eux qui payeraient directement, ce serait les partenaires arabes des USA, et bien évidemment, il y a une condition à mettre la main au portefeuille, c'est qu'il faut que les Iraniens, eux, reviennent à la table des négociations. Nous revenons maintenant à la Syrie, pays mitoyen, avec Syrian News, qui nous apprend que Al-Shara a fait comprendre qu'il ne détestait pas Israël et qu'il souhaitait la paix sur cette base. Alors on peut s'interroger, cette base, qu'est-ce que ça veut dire? On a un peu envie de dire que Al-Shara parle comme du Corneille, quand Chimène répond à Rodrigue, va, je ne te hais point. Alors il y aurait quand même dans cette relation volontaire d'avoir des relations bienveillantes avec l'État d'Israël des oppositions qui seraient celles du Front de la Résistance islamique qui se dit prêt à bombarder les territoires occupés avec des missiles de fabrication syrien. Territoires occupés signifiant l'État d'Israël. Toujours avec Syrian News, l'armée d'occupation israélienne annonce, alors l'armée d'occupation israélienne, c'est le terme occupé par l'agence de presse, annonce l'assassinat de Abu Omar al-Souri, dont le nom, donc ça c'est son nom de guerre, dont le nom d'origine est Akam Alissa. Il avait quitté la Syrie en 2005 pour rejoindre en fait le Hamas et il était devenu le chef de la formation des brigades militaires de Al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas. Toujours avec Syrian News, on nous énumère un chaos commercial à Hama, ville syrienne, et à Damas, la capitale de Syrie, des exécutions et des assassinats à Homs, Alep, ce serait l'anarchie, il y aurait corruption dans tous les services de sécurité, il y aurait des luttes de pouvoir entre deux personnages principaux du pays, Anas al-Khattab et al-Shibani, et 80% des postes de la haute administration décisionnaire seraient répartis entre les différents membres de la famille du président intérimaire al-Shara. Il en est conclu qu'il y a un risque sécuritaire fort, que des villes pourraient tomber, notamment entre les mains de Daesh. Et puis, Syrian News, toujours le 26 juin, interroge « Est-ce qu'on est sur le point d'un accord entre Israël et la Syrie ?» Il paraît qu'il y a des pourparlers en ce moment, à travers bien évidemment la médiation américaine, et qu'il en résulterait que on serait sur le point de faire que la Syrie rejoigne les accords d'Abraham et qu'ils accepteraient, la Syrie accepterait, que le Golan reste sous autorité israélienne. Nous continuons avec le journal libanais L'Orient le Jour, et là il s'agit des pays du Golfe coincés entre un Iran affaibli et un Israël tout puissant. Alors ils ont subi un choc, écrit le journaliste, et ceux qui ont subi le choc, ce sont les pays du Golfe. Ils pensaient être James Bond, ça c'est moi qui le dis, c'est-à-dire être les plus forts de la région, en réussissant à tenir justement les rênes du calme et de la stabilité régionale. Ils pensaient réussir à tenir l'Iran et Israël à distance l'un de l'autre et ils ont eu, comme on pourrait dire, chaud eux aussi de voir les combats déborder sur leur territoire parce qu'il ne faut pas oublier que parmi ces pays, certains ont des frontières communes avec l'Iran. Ils se trouvent coincés, ils veulent en fait se réconcilier avec un Iran affaibli et maintenir des relations avec un État hébreu qu'ils perçoivent devenu tout puissant. Les monarchies du Golfe croyaient tenir les rênes de la stabilité et de la prospérité, mais voilà que maintenant ils ont aussi à faire face non seulement à la bousculade entre Téhéran et Jérusalem, mais également s'ajoutent les populations des monarchies du Golfe qui sont toutes bouillonnantes de colère et qui sont empreintes d'un risque de radicalisation. Et les monarchies tentent de concilier tout ce beau monde. Par ailleurs, toujours avec L'Orient le Jour, un accord serait en gestation, accord qui aurait été, je crois, partiellement publié par la presse israélienne selon le quotidien libanais. On en serait donc sûr dans ce plan d'accord, une restitution immédiate des otages, le départ des dirigeants du Hamas de Gaza, une cogestion de Gaza entre quatre États arabes, mais on nous en cite que deux, c'est-à-dire l'Égypte et les Émirats unis. Un quatrième point, il y aurait possibilité pour les Gazaouis d'émigrer vers les pays d'accueil qui veulent bien les recevoir. Il y aurait cinquièmement une souveraineté pour Israël limitée sur la Cisjordanie. Et à cette condition, Israël accepterait la solution à deux États sous condition de réforme de l'autorité palestinienne. Et puis, il faut quand même parler de ce qui se passe un petit peu ailleurs, et notamment au Soudan, dont on parle toujours très peu. Il faut savoir qu'il y a 1 million de Soudanais, et c'est Al Jazeera qui le rapporte, qui sont réfugiés au Tchad, qui ont passé la frontière. Ce sont majoritairement des femmes et des enfants. Ils manquent d'eau potable. Et l'une des personnes interviewées, qui se présente un peu comme le porte-parole de ces réfugiés, déclare « Le monde ne voit rien. Le système humanitaire est-il en train de s'effondrer ?» En silence. Eh bien, voilà, Pierre, pour aujourd'hui, notre vue de presse arabe est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine.